Donnez-moi de vos nouvelles. Donnez-moi de vos nouvelles. Bonjour à vous tous qui êtes sur Radio Saint-Ferréol. Voici l'émission « Donnez-moi de vos nouvelles » qui vous propose chaque mois la découverte de nouveaux textes littéraires. Il ne vous a pas échappé que la décision du gouvernement de repousser de 2 ans le départ à la retraite a déclenché partout une grande agitation. Les députés se sont écharpés, les syndicats se sont opposés, les manifestants ont défilé, les policiers ont réprimé et les chroniqueurs ont commenté. Et à l'heure où j'enregistre, je ne sais pas si la rencontre du 6 aura permis d'apaiser les esprits. Mais de toute façon, dans cette société inégalitaire, pour chacun, c'est la question du rapport au travail qui s'est posée. Tout le monde n'a pas la chance de s'épanouir dans son travail ou d'y faire fortune, et certains même y perdent leur santé ou leur vie. C'est une curieuse expression que celle qui dit « il faut travailler pour gagner sa vie ». C'est en écho à ces problématiques et à une pancarte aperçue dans une manif qui disait « La retraite, c'est mieux quand on est en vie » que j'ai choisi de vous lire 2 nouvelles de Claudie Rassa. Elles sont tirées du livre « Aux alentours de la nuit » paru aux éditions Aide en cours, animé par Isabelle Mikalev. Atelier 8, écocite de Heure. 2 histoires, 2 vies, mais écoutez plutôt. La musique des âmes. Quand je sortais sur mon balcon et que je fermais les yeux, j'entendais la mer. Les vagues se succédaient plus ou moins rapprochées. Il y avait des marées hautes, parfois de brèves accalmies. Cela faisait comme une respiration. J'y voyais des galets rouler, des bois venus de lointains naufrages, des coquillages et des pieds nus que le sable doucement avalait. Mais j'étais loin de tout rivage, et ce que j'aurais voulu m'éloper marine n'était que le chuintement sur l'asphalte des pneus des automobiles. Une pneumonie. Quand j'ouvrais les yeux, ce n'était pas la mer. Des arbres, en rang sur les trottoirs comme des sentinelles, les pieds plantés dans le goudron, des passants pressés, téléphoniques, des autobus pleins comme des outres, ivres d'être fatigués, des cris, des pétarades, des poteaux indicateurs, des publicités, des chiens en laisse traînés par des vibrions connectés et qui tentaient de pisser sur 3 pattes en courant. Un univers de tôle, de bruit, de fureur et de béton. Il me fallait partir. J'avais besoin d'entendre le silence retenu dans le chant des ruisseaux. J'avais envie de dormir dans les arbres avec les oiseaux. Quand, du haut du ciel, un pigeon trop urbain me lâcha sa fiente sur l'épaule, je me mis en quête d'annonces dans les journaux pour changer d'horizon. À vendre ou à louer, petite maison, moulin en ruine. Appelez Joseph au 06 18 03 48 47. J'avais appelé Joseph. nous avions fixé un rendez-vous. Je voulais bien sûr voir cette maison, la ruine et les environs. Joseph, quant à lui, voulait me rencontrer pour savoir si j'allais être un prétendant digne d'entretenir les âmes. C'est ce qu'il me dit. Je ne lui demandais pas de préciser ce qu'il entendait par cette énigmatique condition. Nous verrions bien demain. Cette nuit-là, je fus réveillée plusieurs fois par des rêves de moulins que je prolongeai consciemment entre deux instants de sommeil. J'y baignais tantôt dans l'eau d'un ruisseau, tantôt dans la farine. J'y tournais, attaché aux ailes d'un moulin, comme dans le supplice de la roue, mais je ne souffrais pas. J'étais le meunier hurlant, la tête plongée dans l'eau et séchée par le vent. Il y avait des greniers, des épis, des graines multicolores que se disputaient les corbeaux, et dans mes cris de joie, il y avait de la musique. On entendait rire Amadeus, on entendait clopiner Satie. Je me levai avant le jour. Un jour qui se vautrait dans le blouse des camions de la voirie. Ville grande caisse, patrie des déracinés. En milieu de matinée, je garai ma voiture sur le terre-plein qui domine la combe. Il y avait un sentier qui descendait vers la rivière et vers la maison. Je le suivis avec précaution, trébuchant parfois sur les pierres, les racines et les ornières. J'entendais l'eau chanter de plus en plus clairement. Je m'arrêtai. Je n'étais plus qu'à quelques pas du cours d'eau. Je ne voyais toujours pas la maison, qui devait être un peu plus à l'écart. Mais, au bord du ruisseau, droit comme un héron bleu en salopette, immobile, Joseph se tenait. Je m'approchai de lui, le saluant d'un geste de la main. Il ne bougea pas, ne répondit pas à mon salut. Pendant un moment qui me parut très long, il me regarda, les yeux pétris de rides, au ras de la casquette, bleu comme la salopette. Il dit « Alors c'est toi ». Et sa main plongea dans la poche de devant pour y pêcher une roulée rabougrie, qu'il alluma. Je remarquai qu'à cette main, il manquait un doigt. J'ai travaillé dans la métallurgie. Métallo, on dit. Maintenant, je me la coule, comme mon ruisseau. J'ai trois poules et le coq, c'est pour les œufs. Le coq, il est toujours perché sur la carcasse du tracteur que tu vois dans les ronces, à côté de la roue du moulin, enfin ce qu'il en reste. Comme il a l'air de s'en occuper, le coq, je l'appelle le mécano. Les poules, j'en sais rien comme elles s'appellent, c'est pas grave, elles gloussent. Mais c'est presque midi, c'est l'heure de manger. Bien, j'ai pas grand-chose, mais on va partager. Je le suivis en direction de la maison qu'enfin j'allais découvrir. Posée dans un fatras de buissons, d'arbustes et de ferrailles rouillées, une bâtisse tout en long, basse, surmontée d'une cheminée en pierre, comme un navire en cale sèche dans les ronciers. Une seule pièce. C'était successivement la cuisine, la chambre où vivre et dormir, et tout au fond les toilettes, un évier, une longue table en bois, un lit, une armoire et un rideau tiré pour préserver l'intimité. « Assieds-toi, » dit Joseph, et il servit deux verres de vin. C'était âpre, sombre, mais franc et bon comme le pain gris qu'il entreprit de trancher. Un peu plus haut, il y a un guet. C'est par là qu'elle était venue. J'avais d'abord entendu la musique. J'étais à regarder la rivière, comme je fais chaque matin. Ça me récompense de ma vie à l'usine, J'y vois des couleurs, des reflets, des monnaies d'or jetées dedans par les arbres et le soleil. J'y entends des rires de gamins, peut-être ceux que je n'ai pas eus. Et puis, il y a des hanches de danseuses limpides, des ondulations traversées par les éclats vifs que lancent les poissons. C'est beau, la rivière, c'est riche, ça te paye en lumière toutes les années perdues. Sers-toi. Je ne savais pas qui était celle qui était venue, ni quelle musique il avait entendue. Je n'osais pas le demander. Il le dirait. Ses grosses mains où manquait un doigt, ce regard noir dans les replis des rides, ce bleu de travail taché de vin et de cambouis. Mais cette poésie de la rivière, cette nostalgie éclairée par le discours de l'eau, du soleil. Joseph me surprenait. Serais-je digne d'entretenir les âmes? Je le voulais. Je voulais cette maison, ces ruines, ce cours d'eau, et même les poules et le mécano. J'ai juste un livre, dit Joseph. C'est des poésies. Je le relis toujours. J'y trouve chaque fois des trucs nouveaux. » Dans l'ébauche d'un sourire, il ajouta « Un livre, ça suffit. » « Et toi ? » demanda-t-il alors. « Tu fais de la peinture. Ici, tu seras bien. » J'en profitai pour lui demander si la maison était à vendre ou à louer. L'annonce ne semblait pas assez claire. « Je crois bien que je ne peux pas la vendre. Une vie n'a pas de prix. Pas plus que je ne peux la louer. Je vais la mettre à ta disposition. Pour rien. Pas de prix. Tu me permettras seulement de revenir chaque fois que je le voudrai, chaque fois que j'en aurai besoin. C'est ici que j'ai vécu la part lumineuse de mon temps. Mais je ne peux plus rester. » Trop de souvenirs de ces instants heureux. Elle venait, on s'aimait, elle repartait, elle revenait, et puis elle est partie pour toujours. Alors moi, je dois partir aussi, tu comprends? Qui, elle? Un peu plus haut, il y a le gué. C'est par là qu'elle est venue. J'avais d'abord entendu la musique. Elle jouait du saxophone, et ce qu'elle aimait le mieux, c'était de jouer seule, dehors, avec le bruissement des feuilles et le chant des ruisseaux. Elle avait trouvé cet endroit, ma petite vallée. Je l'avais invitée, elle avait accepté. Elle était revenue, souvent, de plus en plus souvent. Un soir, il y avait eu un orage. Elle avait ri du coup de foudre. La musique nous avait enlacés. Moi, le sombre métallo, elle, le reflet chantant de l'eau. Et puis un jour, elle n'est plus venue, plus jamais. J'ai appris qu'elle était morte, d'un sale crabe, je ne sais où. On m'a apporté son saxophone, elle en avait donné l'ordre dans ses volontés. Le saxophone est dans l'armoire, là. Je l'emporterai. Joseph me resservit un verre. Nous avions mangé tout le pain et le jambon. Dehors, le mécano poussa un cocorico triomphal. Je regardais mon vin dans mon verre comme pour y chercher quelque chose à dire. Je ne trouvais pas. Je me taisais. Les coqs sont indécents. Joseph se leva et s'en alla chercher l'instrument. Tu vois, il est beau. Ça a été dur pour moi, surtout avec un doigt en moins. Mais j'ai appris. Ça a duré 2 années. J'y suis arrivée. Je joue moins bien qu'elle, c'est sûr. Mais je joue. Tu te rends compte? Moi, le métallo, je n'avais jamais appris la musique. Mais là, pour elle, je me suis accrochée. J'en ai gueulé souvent de ne pas pouvoir. Mais j'ai continué. Et c'est venu. C'est elle, c'est sûr. L'âme, tu comprends? L'âme. Maintenant, enfin, jusqu'à aujourd'hui, je vais le matin devant le ruisseau et je lui dis que je l'aime, à travers ce tuyau. Parce que c'est juste un tuyau, hein. Mais il ondule et chante et parle d'elle et fais-moi taire ce putain de cocorico. De son poing, il frappa la table. Ses yeux étaient mouillés, il retenait ses larmes. Je me taisais foudroyé. Et puis je sortis lancer une pierre au mécano. Le lendemain, Joseph s'en alla. Au dos, un sac. À la main, un doigt en moins. Un saxo. Je vis le héron bleu en salopette monter le sentier qui le conduirait hors de la petite vallée, sans doute un peu hors de sa vie. Il allait retourner à la ville où il avait travaillé, pour jouer du saxophone sur un balcon en regardant passer les autos. Il se ferait engueuler par les voisins qui ne comprendraient pas. Il croirait entendre la mer, mais il ne l'écouterait pas, lui qui ne savait que le ruisseau. Il reviendrait parfois, nous parlerions peu. Il n'y aurait plus grand-chose à livrer aux mots. Le silence, le regard suffirait. Du vin, du pain, les œufs de 3 poules, entretenir les âmes et lancer des pierres au mécano. Plus tard, j'ai acheté un saxophone, j'ai pris des cours. C'est vrai que ce n'est pas facile. Il faut de bonnes raisons pour s'accrocher. Je joue le matin au bord de l'eau. La rivière donne le tempo. Un jour, un homme est venu par le sentier. Il m'avait entendu jouer. Est-ce que je voulais me joindre à l'harmonie municipale? On manquait justement d'un saxophoniste. Je lui ai répondu que les histoires d'amour ne se racontaient pas dans les fanfares. Il n'a pas compris. A haussé les épaules, a lancé une pierre au coq et il est reparti. Après, j'ai mangé les poules, mais avait-elle une âme? Le coq est mort. J'habite là, seul, un saxophone, un ruisseau. Joseph n'est plus jamais revenu. Thank you. Le garage du fils. Le vieux Manfred a dit « Si l'un de vous deux ne reprend pas le garage, je sors de la tombe et je lui casse la gueule. » Et puis il est mort. De toute façon, il ne pouvait pas le faire, conclut Polo, l'aîné des frères Manfred, réparation toute marque. Et il se tailla une large tranche de pain gris sur laquelle il se mit à étaler des rillettes. Dumont. Rapport aux 24 heures. Chez Manfred, la bagnole régnait, primée jusque dans le choix des mets, des vêtements, des rares loisirs, des livres, des filles même. La dernière, Apollo, s'appelait Micheline, à cause des pneus, aussi à cause des nichons qu'elle avait comme des airbags. Et de sa capacité de passer de zéro à ciel en moins d'une minute et plusieurs fois par tour de piste. Ce qu'il fallait pas lui en promettre à Polo Manfred. 1,92 m, 100 kg, rien que du muscle et un cœur grand comme un terrain de rugby. Justement, les dirigeants du RCB ne l'avaient pas manqué, le Polo. 10 saisons en deuxième ligne, à prendre des ballons dans ses mains qu'il avait comme des raquettes de tennis, à balancer sa masse dans les regroupements pour protéger les petits. Protéger les petits. Jusqu'au jour où le 5 du Racing lui avait mis un drop dans la tête, 3 semaines d'hôpital, et voilà, le rugby c'est fini. À 30 ans, on peut raccrocher sans regret. Et puis d'ailleurs, le jeu se durcit. Polo n'est pas méchant. Polo n'est pas méchant, tout le contraire. Sur le terrain, il a protégé les petits et dans sa vie aussi. À la mort de sa mère, la regrettée Renaud Manfred, née Talbot, il n'avait que 10 ans. Le père, toujours les mains dans le cambouis, couché sous les bagnoles dans son bleu crasseux, la maïs au coin de la tronche et grincheux comme un garagiste. C'est lui, Polo, qui avait élevé Manu. Le pauvre petit n'avait que 3 ans et ne pouvait plus s'arrêter de pleurer en cherchant sa mère à travers le garage. Comme si c'est dans un garage qu'on peut trouver sa mère. Elle y faisait bien la comptabilité, Renaud, mais c'était derrière, dans la partie du bâtiment qui servait de bureau et d'appartement à la famille Manfred. N'importe, Manu cherchait sa mère disparue entre les voitures éventrées, les criques, les pneumatiques, les ponts et les fosses à vidange. C'était une misère. Plus qu'il n'en fallait pour émouvoir ce déjà grand gaillard de 10 ans, qui se mit à s'occuper du cadet avec la tendresse d'une nounou et la vigilance d'une sentinelle. Et Manu grandit, mais sans jamais vraiment cesser de chercher sa mère dans ce garage où il errait, en donnant l'impression d'un qui n'a pas compris quelque chose. « Débile léger », avait dit le docteur Panouillet lors de l'entrée à l'école primaire. « Léger toi-même », avait pensé Polo en regardant Manu, déjà plus grand que la moitié des CM2. Et Polo s'était mis de plus belle à la protection du petit. Manu, 2,02 m, 120 kg, écrasa un demi-camembert au lait cru sur sa tranche de pain, termina cul-sec son verre de vin de pays et demanda « Pourquoi il pouvait pas le faire ?»« Parce que, » dit Polo, si on n'avait pas repris le garage, le père n'aurait jamais su lequel de nous deux avait trahi sa volonté. Il aurait fallu qu'il dise « je vous casse la gueule » au lieu de « je lui casse la gueule ».« fit Manu, empêché par le camembert. Et puis parce que le père n'aurait pas pu me casser la gueule, ni à toi, frérot. Il faisait que 90 kilos et il avait 65 balais. En plus, ajouta-t-il en se servant un verre, il aurait fallu qu'il sorte de la tombe. Et ça, je ne sais pas comment il aurait fait. On revient pas d'entre les morts. C'est comme moi, conclut Manu qui n'avait pas capté ce dernier argument. En plus d'être un colosse au cœur tendre, Polo était un artiste. Il savait tout faire. À ses heures de loisirs, rares, le soir au fond du garage, il sortait sa valise, son chevalet, ses toiles, et les mains encore grasses de cambouis et d'huile de moteur, il écrasait des tubes de peinture à l'huile pour peindre. Des voitures. Gros plans de calandre. Roues à jantes ouvragées. Tubulures. Coucher de soleil sur tableau de bord. Effet trompe-l'œil dans rétroviseurs extérieurs. Ailes profilées comme des cuisses de pin-up. Pare-chocs écrasés. Boutons de radiateur, traces de pneus sur asphalte, freinage, échappement, hélice et amortisseur, boulon, écrou, clé de 12, toute une poésie, tout un univers, passionnément capturé, traduit, exprimé, vidé sur des toiles de 2 mètres sur 3, soigneusement titrées, datées, signées et rangées dans la chambre des parents désormais inoccupée, en attendant une hypothétique exposition. Le seul public de Polo, c'était Manu. Avec ses battoirs à 5 doigts, il feuilletait délicatement l'œuvre de son frangin vénéré. Il pouvait rester des heures à regarder l'étoile avec l'air d'un qui n'a pas compris quelque chose, comme dans une galerie, sauf qu'on ne va pas dans une galerie en salopette de mécano. Et sauf que M. de Lavergne, propriétaire du Cyclope, avait toujours gentiment refusé d'exposer les Manfred. « C'est pas juste !» grognait Manu. C'est encore plus beau que des moteurs. Et de Lavergne y fait chier avec ses bouquets, ses bateaux, ses oiseaux. Et en plus ceux qui font que des taches et des rayures. Merde, Polo, faudrait peut-être lui casser la gueule.
Non, disait Polo, faudrait pas. C'est pas grave, ça m'empêche pas de faire.
Et Manu retournait chercher sa mère parmi les automobiles. Depuis tout petit, Polo avait le don de la mécanique. Il avait beaucoup séché la maternelle, pas obligatoire, pour regarder son père soigner les moteurs. Il avait aimé ce chirurgien aux grosses mains sales, ses outils lourds et graisseux, l'huile partout, l'odeur de l'essence, du gasoil, les petits carreaux de verre noircis, gras, dans les coins desquels les araignées s'acharnaient à tisser des toiles avec des chiffons de vidange. Vidange. Même en juillet, le soleil était toujours blafard.
comme un disque de frein de plus dans le hangar. Et la pluie sur les tôles ondulées, des après-midi entières, goutte après goutte, comme la fuite d'un joint ou à bouillon fumant comme un radiateur. Le garage est une plage, un univers, un microclimat. Des hommes bleus, noirs, suants, en salopette et en marcelle, y traînent des espadrilles à semelles de cordes, silencieux, lubrifiés comme des pistons. Sol de terre battue, ciment, ferraille. Au mur gris, les sourires figés, les poses aérodynamiques des pin-up, des épinglés dessus des calendriers motules, védoles et sceaux. Toujours à la page de janvier, après on n'y pense plus, le temps n'est pas le même qu'ailleurs. Faut finir la Mercedes à Monsieur Tanguy, celui qui la change tous les 2 ans. Les pneus crevés. Ça a été les gammes Apollo, ces lignes d'écriture, ces tables de multiplication, les pneus crevés. Et puis, plus vieux, les vidanges. Vidanges. Changer les bougies. Bougie après bougie, c'est comme ça qu'on grandit, qu'on apprend. Ça vous fait les anniversaires. À souffler dans les gicleurs. Le temps passe. Et Polo était devenu un mélomane, un écouteur, un expert. Aujourd'hui, il était capable du diagnostic rien qu'en écoutant tourner le moteur. Ah, j'entends quelque chose. Pas régulier. C'est le piston. C'est un joint. Une durite. Un cylindre. Une soupape. C'est un soupape, plaisantait le vieux Manfred. Le pape, pour l'instant, c'est moi. Comme ça qu'avait grandi Polo. Appris. Et Manu cherchait la voix de sa mère dans les hoquets d'un diesel. Si l'un de vous deux ne reprend pas le garage, je sors de la tombe et je lui casse la gueule. Polo avait repris le garage. Et Manu aussi. Au début, Polo avait été le seul à s'en apercevoir. Il n'avait plus la même adresse avec ses mains. Il lâchait des boulons. Merde, qu'est-ce qui arrive? Il peinait avec les molettes des clés. Lui, le costaud, le précis, l'orfèvre, le chirurgien. Et du temps passa, des mois, des années, et Polo n'y arrivait plus. Du tout. Il avait dû abandonner la peinture parce qu'il passait trop de temps sur les moteurs. Il était devenu lent, hésitant, approximatif, et il devait faire le double d'heures pour produire le simple travail. Plus de loisirs, plus de soirées. Harassé, inquiet, Polo trimait jusqu'à des 2-3 heures du matin. Dormait mal. Rêver mal, s'inquiéter. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui m'arrive? Ça prit des proportions telles que même Manu finit par s'en apercevoir. Dis donc, Polo, qu'est-ce que tu fous avec ce tire-bouchon? T'arrives pas à ouvrir une bouteille? Et Manu riait, se moquait un peu même. C'était une petite revanche pour lui que de s'occuper de Polo. Manu ouvrit des bouteilles, aida Polo à boulonner, à serrer, à déjanter. À déchanter. Car il ne rigolait plus, Polo. Il avait peur. 100 kilos d'énergie et d'amour qui se mettent comme ça, tout d'un coup, à coincer. À cogner comme des bielles, ça fait gomberger. En fait, ça a mis plusieurs mois, plusieurs années, à empirer doucement mais inexorablement. Manu coupait la viande à Polo, l'aidait à s'habiller, à se raser. « Qu'est-ce que t'as, bon Dieu ?» Manu en oubliait de chercher sa mère. n'avait plus le temps, Manu protégeait Polo. Il fallut attendre que Polo ne puisse presque plus se déplacer. Il traînait les pieds comme un qui marche avec les patins pour pas salir quand la mer a ciré. Des fois, il restait bloqué, ne pouvait plus ni avancer ni reculer, tremblant, tétanisé. Il regardait Manu qui le regardait. Plusieurs années, des siècles, un calvaire. Il allait falloir vendre le garage. Les frères n'arrivaient plus. Polo ne pouvait plus, Manu ne savait pas. Il n'y avait presque plus d'argent, presque plus de clients. Et l'angoisse, la vie qui se met à couler trop lentement, comme l'huile de vidange, épaisse, épaisse comme la peur, comme la folie. Polo se voyait à l'hospice, dans un fauteuil, à contempler pendant des années encore un monde blanc, net, propre, aseptisé et silencieux, à voir des hommes et des femmes aux blouses immaculées hocher la tête en le regardant. Il fallut attendre que Polo ne puisse presque plus parler. Alors il le dit à Manu. Ça va pas s'arranger, frérot. Je ne serai plus jamais bon à quelque chose. J'ai une saleté de putain de maladie. Ça s'appelle Parkinson. Quoi ? Parkinson. Ça ne passe pas. Ça devient de pire en pire. Et puis, j'attendrai la mort dans un fauteuil. Merde ! Des filles toutes blanches me soigneront, comme du coton. Des filles qui n'ont jamais caressé des moteurs, jamais tendu des courroies, jamais sali leurs petites mains blanches avec du cambouis. Polo pleurait. Nom de Dieu, Polo pleurait. Manu avait l'impression qu'il lui jouait une mauvaise farce, qu'il voulait encore le taquiner, gentiment, comme Polo. Mais c'était vrai que Polo ne faisait plus rien, vrai qu'il n'arrivait plus à rien, même pas marcher, se lever, ouvrir le vin, réparer une panne, c'était vrai. Manu avait des picotements partout et du froid, dans le dos, dans les bras, dans les jambes, partout. Il voulait tomber, mourir, disparaître, ou peut-être détruire, anéantir. Manu ne savait pas. D'abord, il n'avait jamais su, alors. Et puis toi, mon frérot, qu'est-ce que tu vas devenir ? Polo ne contrôlait plus rien. La trouille, la chiasse, il laissait tout aller. Il ne pouvait plus rien retenir, ni ses larmes, ni sa peur, ni les mots pour le dire, rien. Lui, Polo, le grand deuxième ligne qui tenait debout avec le ballon sous le bras au milieu de la rafale des autres, avec son Manu sous le bras au milieu des mêlées et des tempêtes, voilà qu'il faisait sous lui, voilà qu'il chialait, qu'il cafouillait. Ils vont te mettre aussi à l'hosto, mon frérot. Ça fait pas un pli. Tu peux pas tenir le garage. Tu sais pas. On va trahir le papa. Merde. On mangera plus de camembert Henriette. On boira plus des canons tous les deux. Manu n'en revenait pas. Son Polo. Manu n'allait jamais en revenir. Juste avant, Polo se ressaisit un instant, sécha ses larmes péniblement, il ne pouvait plus bouger, et dit péniblement, il ne pouvait guère parler. Tu sais ce que ça veut dire en anglais, Parkinson ? Manu ne savait pas. Il n'avait jamais su. Et d'ailleurs, Manu était déjà dans l'armoire du père, à chercher. Ça veut dire garage du fils, annonça Polo. Puis il se mit à trembler. Le vieux Manfred n'aurait pas aimé ça. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce métallo qui, à la retraite, a découvert la musique, l'amour et le saxophone, et que l'histoire à peine romancée de Polo vous a ému. Pour accompagner cette lecture, j'ai choisi la musique de Céline Bonacina, une femme qui joue du saxo, petit clin d'œil à la première nouvelle. Elle est passée à Créjazz Vocal il y a quelques années, me dit Charles Gilles, que je remercie pour cette découverte et pour son aide précieuse à la technique. Je vous retrouverai le mois prochain pour une autre lecture. En attendant, feuilletez l'éloge de la paresse et n'oubliez pas, donnez-moi de vos nouvelles.
Donnez-moi de vos nouvelles. Donnez-moi de...